Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on but de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est ici pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Canu, il est l'heure d'un Canu Info, nous sommes le jeudi 19 septembre 2019 et ce soir j'ai la joie, le plaisir d'accueillir dès la rentrée Jean-Yves.
Bonsoir.
Bonsoir à toi, puisque Laurent est en vadrouille pour le travail. Et oui, c'est des choses qui arrivent. On vous rappelle qu'ici, à Radio Canu, je commence à faire déjà des fautes dans mon langage. Ben oui, à Radio Canu, nous sommes tous et toutes bénévoles. Donc, nous sommes parfois pris par d'autres occupations. Donc, avec Jean-Yves, on va vous parler un petit peu d'actualité. On parlera un petit peu de corruption. Nous irons en Corée du Sud. Nous ferons un petit tour sur la vie du travail. Comment ça se passe ailleurs, d'ailleurs, en Corée du Sud. On reviendra aussi sur cette affaire du travail le dimanche, ou plutôt de caisse enregistreuse dans l'hypermarché d'Angers. Hein, ça avait fait un petit peu du bruit, hein, nous donnerons suite. Nous parlons de l'économie mondiale mondialisée. Oui, j'aime bien parler comme ça. On ira au Japon, on ira en Corée du Sud, encore une fois. Oui, je suis un peu thématique encore ce soir au niveau de la géographie. Voilà, donc on parlera peut-être aussi d'une grève à General Motors. Ça, c'est aux États-Unis d'Amérique, mais quand même, Laurent n'est pas là, mais je sais qu'il aurait souhaité dire un petit mot à monsieur et madame Balkany.
Alors, pour Laurent, vas-y.
Coucou. Alors, je sais pas comment ça se passe autour de vous. Hein, alors, on ne travaille pas tous dans les mêmes ambiances et on n'a pas tous les mêmes et toutes les mêmes possibilités pour discuter à la pause de midi, à la pause tout court ou en sortant le soir, en attendant le métro. Mais peut-être qu'on sait aussi en famille. Mais en tout cas, c'est une affaire qui fait beaucoup, beaucoup parler. Je sais pas. Non, dans vos boulots, ça fait pas parler, vous, un petit peu. Dans vos familles, ça fait pas parler un petit peu parce que c'est un sujet, quand même, j'ai trouvé que ça touche l'humanité entière. On a trouvé comme les médias un petit peu euphoriques. Hein, de voir monsieur et madame se prendre quand même de la prison.
Oui.
Et de voir surtout monsieur Balkany direct en tôle.
Ouais.
Alors nous, on n'est pas pour la prison, surtout pour des affaires de thunes. Hein. Il faut bien être clair dans cette émission. Je pense que tu es d'accord avec
oui, en
nous,
fait, hein. C'est toujours ce truc-là. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, bon, c'est cool, ils se sont fait attraper quand même, parce que si c'était toi, tu te ferais ramasse direct. Et qu'en même temps, se dire, ils veulent en tôle pour une histoire de thunes. Jal Atoll, oui, ça fait voilà. Royalement chier.
Mais de la prison ferme, d'être entre quatre murs enfermés, privés de liberté. Bien sûr, c'est quelqu'un. Tous les deux, ils sont particulièrement arrogants. Ils ont en plus défié la justice. Hein, quand même, les médias se sont fait une joie de nous raconter tout ce qui s'est passé quand même pendant cette affaire judiciaire sur ce procès. Donc. Évidemment, on a envie de leur mettre des baffes. Hein. Bon, ça aussi, ça se fait pas, il paraît. Mais la violence physique est mal. Mais voilà, effectivement, aller en prison quand même pour ça. Alors évidemment, on sait que M. Balkany et Mme Balkany continuent à jouer avec la loi, puisqu'ils espèrent garder leur mairie. Madame est donc dehors. Premier adjointe prend donc la tête de cette mairie. Monsieur Balkany, qui veut faire appel, se dit que ça sera tout ça suspensif, donc il va pouvoir peut-être se représenter sur 2020. Enfin, là, quand même, on touche quand même à quelque chose de fort en termes de démocratie. Et ce qui est quand même dingue, c'est qu'il y a des gens qui les soutiennent dans leur ville. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que ils et elle. Tous les deux ont fait tellement de cadeaux que forcément...
Ça manque, quelqu'un d'aussi généreux.
Ah ouais, et puis il y a des gens qui refusent de voir que c'était des cadeaux dans l'illégalité et qui voient juste la générosité, sauf que c'est pas son pognon qu'il a offert aux autres, c'est le pognon qu'il aurait dû donner aux impôts et tout. Alors là, c'est sur un premier, on attend maintenant l'affaire de corruption, je m'emballe un peu en plus. Sur le deuxième, quand même, c'est 7 ans. C'est beaucoup. Alors évidemment, c'est aussi des élus de la République, ce qui veut dire que c'est plus grave que quand c'est toi qui payes pas tes impôts. C'est ce qui s'est passé sur ce premier. On parle quand même de millions, on parle pas quand même de 10 000 balles que t'aurais oublié. Dieu, c'est des sommes énormes où je te vois soulever les sourcils. Pour nous, c'est des sommes absolument énormes, 10 000 balles. Mais je veux dire, c'est pas 10 000 balles que t'aurais oublié sur 4 ans de déclarer aux impôts, quoi. C'est des millions. Donc on a cette affaire quand même de fisc qui est extrêmement important. Et puis ensuite, on a une affaire de corruption qui donc va arriver. Là, c'est une autre paire de manches quand même, mais je sais pas. Peut-être.
Ben oui, je sais que j'ai vu dernièrement, je suis tombé sur un doc sur les Balkany. Il a un côté vraiment mafieux. Il a vraiment un côté parrain, quoi, tu vois. Et c'est impressionnant parce qu'effectivement, je pense que dans plein d'autres pays, je suis pas sûr qu'ils auraient pu aller aussi vite et aussi loin sans être vraiment inquiétés. Parce qu'il y a vraiment des pays où tu fais pas un pet de travers, surtout pas quand t'es élu de la République. Enfin, en tout cas de l'État. Et ce qui fait que c'est des personnages en même temps. Il y a un folklore derrière tout ça, tu vois. Je sais pas.
C'est parce qu'en fait, tu es jaloux. Tu aimerais te promener toi aussi en peignoir avec des billets et des liasses de billets dans les poches. Voilà. Donc, enfin, bon, voilà, c'était quand même. On voulait juste revenir un petit peu là-dessus. Et donc, j'ai une affaire de corruption qui se passe à l'autre bout du monde. Ça se passe en Corée du Sud. Vous savez qu'il y a un président démocrate qui a pris la place de Madame Park, conservatrice, qui s'est fait virer pour des affaires de corruption. Pardon, ça me fait sourire. Monsieur Moon a décidé de lancer un certain nombre de réformes dans son pays. Donc on en rediscute avec Jean-Yves. Monsieur Moon, il vient quand même de la contestation contre la dictature, pour les droits des êtres humains, la liberté des étudiants, le droit de parole, de pensée. Il faut pas oublier que dans la ministre de la Culture, Madame Park, c'était une conservatrice qui voulait faire interdire tout, enfin qui avait bridé et le cinéma, la littérature, enfin c'était quand même quelque chose d'assez particulier quand même sous Madame Park. Donc lui, il a lancé des réformes et il a aussi décidé de réformer le système judiciaire en Corée du Sud et il a envie de toucher au bureau public des procureurs qui est une grosse machine. Je disais à Jean-Yves juste avant cette émission quand on préparait, on voit beaucoup ça dans les films coréens, ce bureau public, enfin on voit beaucoup, on le voit dans les polars, c'est une espèce de grosse machine avec de la hiérarchie, du chef, c'est politisé, c'est très puissant. Et c'est ça que M. Moon veut casser, c'est-à-dire cette puissance et ce pouvoir que détient ce bureau, qui a peu changé depuis la dictature, en fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont faites par ce bureau et qui datent d'une certaine époque. Et qui, voilà, avec des pouvoirs très abusifs. Et Monsieur Moon a décidé de choisir un monsieur qui s'appelle Cho Kok, qui est un juriste, pour faire cette réforme. Il n'aurait pas dû. Puisque Monsieur Cho Kok se retrouve dans une histoire de corruption, c'est extrêmement médiatisé en Corée du Sud et c'est le scandale. La Corée du Sud, vous savez, c'est un pays où il y a du scandale, il y a des médias derrière. Ça prend des proportions absolument incroyables et en plus sur la corruption, c'est très important parce que le pays ne se sort pas de cette histoire de corruption. C'est vraiment quelque chose de terrible. on aurait pu penser qu'avec l'arrivée de Monsieur Moon, quoi qu'on pense, hein, des choses aussi qu'il peut mettre en place à côté, il y aurait peut-être eu quelque chose, un appel d'air, hein, sur certaines pratiques en Corée du Sud. Et en fait, on s'aperçoit que dès qu'on veut toucher à quelque chose, ça pose d'autres problèmes. Alors, du côté de la gauche, on dit qu'en fait, Monsieur Cho Kuk est attaqué parce que justement, il est à la tête de cette réforme. Bon, il semblerait que ce soit quand même un petit peu plus compliqué. Il y a eu une trentaine de perquisitions quand même. Ils font pas les choses à moitié, hein, quand même. Puisque ça fait là quand même 3 semaines depuis donc le début septembre que il y a des scandales, des révélations autour du cet homme, du ministre de la Justice et de la famille. Il y a des étudiants dans la rue. Il y a des médias en boucle, la presse fait des papiers tous les jours, c'est-à-dire qu'on parle plus de ça que des histoires politiques avec le Japon, il y a une guerre commerciale, on y reviendra. Enfin, ça prend des proportions incroyables, et ça prend de telles proportions, parce que nous sommes quand même en Corée du Sud, que l'opposant du Parti de la Liberté, qui a un parti conservateur, Monsieur Wong Kyo-han, je vais essayer de le dire correctement, a décidé lundi de se raser la tête. Alors il est le troisième à faire ça, alors c'est un acte de protestation assez fort. Il a pris une chaise, il s'est installé devant donc, le palais présidentiel. Et il y a un coiffeur qui est arrivé et qui lui a rasé la tête. Donc c'est une déclaration publique de contestation et de protestation. Deux femmes avaient fait ça juste avant. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce leader de l'opposition du Parti de la Liberté était en fait un ministre sous la présidence de Madame Park, qui, je vous rappelle, a donc été viré pour des histoires de corruption. Donc, c'est un peu la boucle. Hein, et en boucle. C'est-à-dire, ceux qui, aujourd'hui, et celles qui reprochent des histoires de corruption d'un côté, alors, je dis pas que lui-même a été touché par cette corruption, mais en tout cas, il a fait partie d'un gouvernement avec une présidence qui a été entachée. Il faut quand même le souligner. Donc, et on peut pas dire qu'à l'époque, ils aient vraiment craché sur Madame Park pour dire « Oh là là, je ne veux plus jamais la voir ».
Oui, là, ça devient pas bien parce que c'est pas de leur côté, en fait. Et quand c'est de leur côté, au mieux, ils ne voient rien, au pire, ils ne savent rien.
Alors, le problème du côté de M. Cho Kuk, c'est qu'effectivement, il prend la tête du ministère de la Justice pour lancer cette réforme début septembre, alors qu'il y a des affaires de scandale. C'est là peut-être l'erreur de M. Moon, c'est de ne pas avoir écouté ce qu'il était en train de se dire, alors qu'il commençait à y avoir du scandale, des révélations, et il veut maintenir quand même M. Cho Kuk dans cette histoire de ministère de la Justice, à prendre la tête quand même, devenir ministre, et puis en même temps dans cette réforme, donc c'est un peu quand même compliqué pour lui. Alors M. Cho Kuk, il aurait eu des petites affaires de corruption, alors c'est toujours très familial en Corée du Sud aussi, c'est comme avec les Balkany. Là c'est sa fille qui aurait pu profiter un petit peu de passe-droit, parce que vous savez que en Corée du Sud, les études sont assez brutales. Et ça commence dès la maternelle. Hein. On vous brutalise pour que vous soyez très très bon ou très très bonne à l'école, pour que vous ayez des parcours exceptionnels. Les études coûtent cher. Tout le monde n'en fait pas. Hein. Évidemment, à l'université, c'est comme de partout. Donc, d'apprendre que la fille du ministre de la Justice aurait pu avoir des passe-droits pour obtenir des places à des endroits, alors qu'il y en a qui se galèrent depuis la maternelle, et que ça coûte très cher aux parents, ça c'est du scandale. Parce que là, on touche en plus à la famille et à un secteur qui est l'éducation, qui est très porté en Corée du Sud. Donc, voilà. Donc, on a donc des gens qui se rasent la tête devant la Maison Bleue, hein, c'est le palais présidentiel. Un scandale de corruption, de passe-droit, un ministre de la Justice qui est dans... Voilà, enfin, une réforme qui est mal engagée.
Plutôt, oui.
Et c'est la démocratie est pas simple hein, en Corée du Sud, il faut quand même le faire savoir. Alors juste c'est quand même un pays de à côté monsieur Balkany, je sais pas s'il aura résisté. Parce que monsieur Cho pour quand même essayer de faire valoir son bon droit, il a fait une conférence de presse, ça a duré 11 heures.
11 heures de conférence de presse.
Oui. Ensuite, il y a une audition nationale qui a duré 15 heures. Je laisse un peu du blanc pour que vous encaissiez quand même l'affaire. Ouais. Non, mais donc, voilà, ça n'empêche pas les gens de continuer dans leur pratique et tout, parce que tant qu'ils ne se font pas choper, finalement, on a l'impression que tout va bien dans le meilleur du monde. Donc, c'était en août, début août. Je vous ai dit que c'était début septembre qu'il avait pris le ministère, mais c'est début août. Donc là, c'est 3 septembre, vous voyez, conférence de presse, il réagit 6 septembre, hop, il se retrouve auditionné. Sa femme, elle est mise en examen. C'est une affaire toujours très familiale, hein, comme je vous le disais. Voilà, bon. On verra. Que dis-je vous dire d'autre ?
C'est une bonne fin.
Voilà. Bon, je sais pas, Monsieur Balkany, on pourrait peut-être l'envoyer en Corée du Sud.
Mais il apprendra peut-être des choses. Non, mais ce qui fait que, enfin, c'est là aussi, je trouve, même dans le fonctionnement, dans le fait que certains critiquent quand c'est pas ceux qui sont au pouvoir. Enfin, en fait, enfin, j'ai l'impression, dans des mesures différentes, etc., mais finalement, là où il y a pouvoir, il y a corruption, et que c'est assez... comment dire, distillé assez bien autour du monde, en fait.
Mais on voit bien en France comment ça se passe, c'est-à-dire que là, on a quand même des gens qui ont réagi sur la condamnation de M. Balkany, sur son affaire fiscale. On a aujourd'hui des gens qui sont quand même des politiques, qui sont visés par des affaires d'utilisation de l'argent, des faux emplois, des emplois fictifs. Hein. Ce qui est marrant, c'est Mme Le Pen, elle est symptomatique, c'est que, comme elle est visée elle-même par des affaires judiciaires, il y a des sujets sur lesquels, comme ça, on l'entend pas beaucoup.
Oui.
Parce que c'est difficile de réagir quand toi-même, hein, t'as un machin qui, là, au-dessus, qui pourrait te couper la tête d'un coup. Donc c'est marrant, voilà. Et puis d'autres osent sans gêne, hein, comme voilà, M. Mélenchon se sert des affaires des autres pour lui-même éviter de se. Enfin, pour tenter de se désengager des problématiques que lui-même a. Donc on a des réactions différentes. Mais Mme Le Pen, elle est symptomatique du silence, elle. C'est sa stratégie. Donc ils ont essayé un moment, quand même, hein, à ce qui était avant le Front National, de réagir quand il y avait les autres, il y avait des soucis, pour dire regardez, ils sont tout pourris. Puis bon. A priori, ça le retourne tout.
Maintenant, ils se soutiennent les uns les autres.
Ouais, bah ouais. Allez, on continue en Corée du Sud et on va parler un petit peu de ce qui se passe avec vos patrons. Alors, c'est pas pour vous donner des idées. Soyons bien clairs, ça se passe à l'étranger, dans un autre pays. Alors, vous savez qu'il y a des caméras qui existent très miniaturisées. Je sais pas si ça se dit, miniaturisées, si ça doit se dire. Qui, jusqu'à présent, faisait beaucoup parler et défrayait les pages presse et les médias internationaux, se faisait l'écho de ces histoires de caméras cachées dans les salons d'essayage et dans les toilettes, qui filmaient évidemment le dessous des jupes des femmes et des filles, ou qui filmaient les femmes et les filles en train de faire pipi, voilà, donc de se déshabiller. Donc on avait l'habitude un petit peu de ces caméras miniaturisées plutôt dans la presse. Et puis maintenant, il y a une autre manière d'en parler. Alors j'ai appris que ça se mettait dans les stylos, ça se cachait dans des cravates, parce que la Corée du Sud est aussi un pays très hiérarchisé, très patriarcal, donc il y a la cravate, le costume. Ça se fait quand même bien, au Japon c'est un peu pareil d'ailleurs. Chez nous, ça se fait encore beaucoup, malheureusement. Mais on sent quand même qu'on peut travailler plus facilement quand même en t-shirt ou moins en polo. C'est pas essayant le polo, hein, quand même. Faut pas bien avoir un t-shirt moche des fois. Enfin bon, ça c'est personnel. Et donc on a appris que là, c'était en pleine augmentation, les ventes de ces petites caméras, parce qu'il y a une loi qui est entrée en vigueur et qui vise les patrons, puisqu'il y a un patronat en Corée du Sud qui est extrêmement violent, qui peut l'être verbalement et physiquement. Il y a eu des affaires en Corée du Sud qui ont défrayé là aussi ils ont une presse quand même assez fabuleuse en Corée du Sud, qui vraiment ont été très médiatisées les affaires, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il y a une loi, c'est parce que un jour un homme a filmé son patron en train de le violenter, hein, et la Corée du Sud a dû prendre des mesures contre ses patrons dits abusifs, c'est le terme qu'employé, bon c'est plus que abusif, et parce qu'il faut savoir que les chefs, les patrons avait des mesures punitives continuelles, hein, donc tu pouvais te faire taper dessus en public. L'homme là quand même s'est fait taper dessus devant ses collègues qui devaient le regarder se faire humilier.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une humiliation vraiment, enfin c'est fait pour ça quoi, c'est pas fait par hasard quoi.
Ah bah oui, c'est montrer sa supériorité, montrer l'autorité et la hiérarchie. Donc là maintenant ces faits sont répréhensibles de 3 ans de prison ferme. D'accord. On touche quand même de la violence, hein, donc voilà. 3 ans de prison ferme. Donc les gens se sont mis à acheter des caméras pour filmer leur patron ou leur chef.
Voilà une bonne utilité.
Donc, alors c'est comme ça qu'on apprend, il y en a dans tout, hein, les boucles de ceinture. Enfin, voilà, comme à la James Bond, comme à la. Moi, ça m'a fait penser à ça, parce que franchement, quand on m'a dit les lunettes, j'ai fait oui, bah oui, c'est un truc de geek un peu. Mmh. Puis quand j'ai lu après qu'il y en avait dans les boucles de ceinture, je me dis ouais, c'est vraiment le truc d'espionnage.
C'est ça.
Comme dans les années, je sais pas, 60. Enfin, je sais pas, ça me faisait penser à des trucs, voilà.
En tout cas, ça nourrit notre imaginaire.
Ouais, voilà, que... alors, mais il paraît que ça existe dans tout maintenant. Tout. Tous les objets ont leur petite caméra, et là l'idée c'est vraiment de pouvoir filmer. Il faut savoir que beaucoup de choses sont mises en ligne, Et donc il y a une démonstration publique de ce que les gens subissent. Donc, quitte à être humilié, de toute façon, vu que tu l'es devant tes collègues, et ben, tu peux montrer ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est justement peut-être aussi de dépasser l'humiliation que tu as eue dans ton entreprise en montrant non pas toi en train de subir, mais ton patron en train de faire. Et je pense que c'est toute la différence. Et enfin, j'espère en tout cas que les gens comprennent bien la différence, parce que moi, je la vois comme ça. C'est-à-dire que c'est pas juste d'être une victime humiliée, mais c'est d'être un salarié ou une salariée qui réagit et qui montre ce que fait un chef ou une chef.
C'est ça.
Que en général un chef d'ailleurs. Plus particulièrement. Alors, cette histoire d'humiliation, c'est pas juste de la violence, c'est de l'humiliation, comme on le disait tout à l'heure. Donc, là, je te rappelais tout à l'heure, c'est une gamine de 10 ans, quand même, on est petit à 10 ans, hein, encore, on est en pleine formation intellectuelle, qui a déjà une belle éducation, puisqu'elle a un chauffeur privé, puisqu'elle est fille d'un patron de presse. Il a un chauffeur. Avec une voiture, tout ça. Enfin, déjà, nous, ça nous dépasse. Et ben, ça s'est su qu'elle insultait donc son chauffeur qui a pratiquement 60 ans. Donc, ce qui est déjà particulier en Corée du Sud, parce qu'une enfant de 10 ans insulte un homme de 60 ans, ce qui est dans la hiérarchie du respect, qui ne veut pas dire de la domination, parce qu'il y a aussi l'idée du respect de l'âge, qui, dans le travail, se transforme en domination, mais qui, sinon, dans d'autres moments, même dans la famille, ça peut se transformer en domination, vous me direz, mais sinon, l'idée, c'est plutôt à la base du respect. Hein, c'est aussi une éducation à la fois religieuse, de croyance, et de quelque chose de très traditionnel. Donc, c'est mal passé. Évidemment qu'une gamine puisse maltraiter son chauffeur, qui est peut-être au niveau de la lutte de classe bien inférieur, mais on, voilà, c'était quand même pas bien passé. Et puis on se souvient, je sais pas si vous vous souvenez, de la fille héritière de Korean Air, qui, parce que ça avait été filmé, elle était en train d'insulter le personnel de bord, puis pas qu'un peu. Hein, voilà, ça avait provoqué tout un scandale, et donc l'homme qui a permis, à cause de qui, on va dire, enfin, grâce à qui, je sais pas comment faut le dire, je suis un peu embêté. Enfin, en tout cas, il y a une loi, parce que la loi dans le quotidien, elle porte son nom, ça s'appelle la loi Yang Jin-ho. Parce que son, voilà, c'est comme je vous le disais, son patron l'a obligé à rester debout. Et donc il l'a frappé, et il y avait donc les autres salariés qui le regardaient, et voilà. Et donc tout ça a été filmé, mis sur internet, et c'est comme ça aujourd'hui qu'il y a une loi qui est censée protéger les salariés, mais surtout punir les chefs et les patrons. Et donc tout le monde se filme.
C'est quand même, c'est particulier quand même.
Bah ouais, parce qu'on pourrait penser que dans un autre pays, on irait voir peut-être son syndicat en disant alors déjà, peut-être qu'on irait voir la police, pour certains et certaines d'entre nous. Je pense que ce serait une méthode. D'autres iraient voir leur syndicat. Oui, moi d'abord, je vais voir mon syndicat, puis après, peut-être que je me dis que j'irai voir la justice, mais ça, c'est une affaire personnelle. En tout cas, oui, si vous faites taper dessus, vous allez voir la police, vous allez déposer une plainte. Parce que qui a le droit de vous taper dessus? Enfin, mince, quoi. Ouais. Et puis que c'est punissable par la loi, et puis que c'est votre supérieur, et qu'il y a toutes les raisons, évidemment, d'agir. Là, le fait de se filmer, c'est quand même un autre contexte.
Ouais, et puis enfin c'est très, j'ai envie de dire, c'est grâce donc quand même à ce salarié qui a dépassé l'humiliation et le côté moins que rien que son patron voulait lui donner, qui en fait a permis ça, quoi. C'est enfin ouais, c'est pas gagné. Voilà.
Allez, on revient en France avec d'autres affaires de la vie, du travail. On va donc parler de cet hypermarché d'Angers qui a fait beaucoup parler, puisque c'est un géant casino de la Roseraie qui a ouvert ses portes le dimanche après-midi après 13h. Avec des animatrices de caisse. Je sais pas bien en gros ce que c'est. Enfin, si, je sais ce que c'est, mais je trouve que il faut qu'on arrête d'employer des mots bizarres.
Ouais, c'est animatrice de caisse maintenant ?
Alors, c'est en fait, tu sais, il y a à côté des caisses
automatiques.
Il y a des braves gens qui sont
ça.
Là pour t'accompagner quand tu es un peu perdu.
Donc, elles, ce sont des animatrices.
D'après ce que j'ai compris.
Et celles qui sont, ou ceux d'ailleurs aussi. Hein,
c'est des hôtes de caisse.
Ce sont des hôtes de caisse. Ok, merci.
Mais j'ai cru comprendre. Maintenant, si vous êtes dans la partie et que je me trompe, vous envoyez des messages. Hein. Comme bien évidemment, quand on dit des bêtises, il faut réagir. Et donc, il y a des vigiles. Et l'idée, pour le patronat de ce géant casino de la Roseraie à Angers, c'est d'embaucher des gens qui sont en sous-traitance et qui donc ne dépendent pas de la convention collective qui empêche les salariés, les autres, du supermarché, du géant casino, de l'hypermarché plutôt, de travailler après 13h le dimanche. Puisque je vous rappelle qu'il y a des lois, il y a des règles qui touchent quand même un peu des choses, des gens, et qui freinent la compétitivité. C'est comme ça qu'ils le présentent. Hein. Les braves, le brave patronat le présente comme ça. Donc là, l'idée, c'est de en sous-traitant, de dire bah non.
Il y a personne du commerce dans l'histoire.
Et nous, on n'est pas visé par ça. Enfin voilà, c'était un peu l'idée. Mais bon, l'inspection du travail. Est pas tout à fait d'accord, puisqu'il y a d'après RC Mediapart hein, qui raconte l'affaire, et puis ça a été vérifié par d'autres. Moi, après, par exemple, j'ai été relire Le Figaro qui a été interrogé un peu tout le monde pour savoir exactement ce qu'il en était. Donc, ces deux inspecteurs du travail, je sais pas s'il y avait eu des inspecteurs, inspectrices, donc je n'ai pas cette information-là. En tout cas, deux personnes de l'inspection du travail qui se sont présentées et qui ont fait savoir que, bah non, ça n'allait pas. Alors, bon, je vous rappelle que ça fait parler, puisque le 1er septembre, il y a eu, c'est le deuxième dimanche d'ouverture, avec donc ces caisses automatisées, et qu'il y a eu une grosse mobilisation, voilà. Et que, je crois que c'est devant le premier, que c'est lors du deuxième dimanche qu'en fait il y a eu l'inspection du travail qui a déboulé. Je crois que c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, puisque c'était dès le départ qu'il y a eu la mobilisation. Et ensuite, le 1er septembre, les inspecteurs sont arrivés au sein de cet établissement qui nous vend des produits alimentaires, entre autres. Donc il y aurait une infraction au code du travail, apparemment. On n'en sait pas bien plus. Pour l'instant, alors en tout cas, le groupe Casino dit que le 1er septembre, le jour où donc il y a eu la visite des inspecteurs, il y avait aussi des manifestations devant, et que si ça a été le bazar et que donc le vigile a touché des produits en rayon, c'est parce qu'en fait, il en avait reçu dans la tronche. Apparemment, ça a été confirmé. Dans la tronche, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. En tout cas, bon, oui, il a été malmené. Apparemment, il s'est retrouvé au milieu d'une affaire. Il est vigile hein, en même temps, donc c'est lui qui s'interpose aussi. Et qu'il s'est retrouvé à mettre des choses en rayon pour récupérer ce qui était tombé. C'est ça. Bon, je vous rappelle que maintenant, dans les rayons surgelés, il y a des portes. Je sais pas.
tu distillerais des techniques.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça tombe, ouais. Bizarrement, et qu'en même temps, il se retrouve à ouvrir des portes pour mettre des surgelés. C'est bizarre quand même tout ça, on sait pas bien. En tout cas, effectivement, il y a eu des jets de produits. Donc bon, quelles vont être les suites à donner à tout ça, nous verrons bien. Mais en tout cas, on sait que le travail le dimanche, ça dure en général, les suites. Parce que rien n'est jamais facile et il y a toujours des répercussions. Puisqu'on a un secteur du commerce avec des patronats qui veut continuer à ouvrir, coûte que coûte. Donc là, il y a besoin de vigile, il y a encore besoin d'accompagnement. Est-ce qu'on va tout automatiser? Est-ce qu'on va passer à du rien? Je ne sais pas, c'est-à-dire avec personne. Et puis...
Ils vont faire des magasins, c'était qui a fait ça, Google?
Et Amazon.
Amazon, pardon.
Oui, où tu n'as même pas besoin de sortir.
Pas besoin de personne.
Bah non, parce que tu as ta puce qui ouais. Te scanne directement tes produits et ta puce...
Je pense que ça doit faire rêver le patronat.
Oui, sûrement. Alors, un patronat qui rêve pas trop, c'est aux États-Unis d'Amérique, c'est General Motors.
Et c'est une bonne nouvelle.
Ouais, parce que ça faisait depuis 2007 qu'il n'y avait pas eu de grève. Hein. Il y a eu une crise hein, financière. Hein. Ouais. À ce moment-là, 2007-2018, le secteur automobile partout dans le monde est en forte concurrence. C'est pas simple. Et General Motors avait demandé l'aide et le soutien de ses salariés et donc des syndicats à l'époque pour se sortir de la crise. Aujourd'hui, la crise est passée. En tout cas, c'est plus la même. Et la situation General Motors, c'est un petit peu bloquée. Il y a des négociations qui sont en panne depuis le mois de juillet. Et puis, c'est un secteur un peu particulier, puisqu'il y a des chartes qui sont signées, des contrats, si vous voulez. On va simplifier finalement le vocabulaire sur cette idée-là, qui sont signées entre United Auto Workers, le syndicat, et puis General Motors, la direction. Quand à un moment le contrat a pris fin, si vous voulez, l'accord a pris fin, puisque c'est plutôt d'un accord qu'il faut parler, mais enfin bon, un accord signé, c'est pas loin d'un contrat quand même, le syndicat a appelé la grève générale. Alors, United Auto Workers, c'est des cadres dirigeants. Hein, quand même, je tiens à dire que ce n'est pas la CNT en autogestion. Non, voilà, je vous rappelle, la CNT, hein, syndicat avec le machin rouge et noir, il n'y a pas de chef. Décision directe, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est même pas la CGT, hein, je veux dire, voilà, on en est loin, c'est, enfin, à mon avis, mais c'est encore une fois, c'est très personnel. C'est United Auto Workers, ils ont des cadres dirigeants qui décident donc pour tous les autres, toutes les autres, qui ont décidé à l'unanimité de voter cette grève. C'est assez exceptionnel, il faut le dire, mais comme les négociations sont bloquées, qu'il n'y a plus d'accord avec la direction, ben, du jour au lendemain, on fait grève. Alors toi, si tu me disais que ça te faisait penser à l'Allemagne.
Oui.
À cette manière de faire du syndicalisme, où quand le syndicat dit on y va, on y va.
Oui, c'est ça, et ça se ressent direct, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête, quoi.
Alors, il faut se souvenir qu'il y a eu la CGT, qui était dans certains secteurs, il y a très longtemps, qui fonctionnait de cette manière. Hein. Si jamais tu ne voulais pas faire grève, on te pétait les genoux. Enfin, c'est aussi une réalité physique hein, qui a pu exister dans certains secteurs en France. Mais il y a eu cette CGT-là qui donnait un appel, et puis tout le monde s'arrêtait. Mmh. Et c'était comme ça. Alors, il y avait peut-être des assemblées générales et des débats, hein, autres que d'avoir des cadres dirigeants qui, dans une réunion, décident d'arrêter. Mais en tout cas, c'est un principe quand même, c'est que d'un seul coup, il y a des accords, il y a une espèce de co-gestion, de collaboration, en tout cas pendant des années, puis à un moment, ça clash. Et puis, paf, on lance une grève, et puis on appelle tout le monde à bien vouloir la respecter, s'il vous plaît. Alors, on va pas vous mentir, on n'a pas trouvé les informations de où ils en sont là-bas. Et quel a été exactement le résultat de cette grève? On n'a pas eu le temps voilà, d'aller chercher sur les sites aux États-Unis d'Amérique pour vous traduire tout ça et vous donner le rendu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir pourquoi il y a cette grève. Au-delà du fait d'un accord qui prend fin, il y a des négociations qui sont en cours, qui concernent les salaires, les mutuelles, parce que vous savez qu'aux États-Unis, la santé, c'est un point important, donc c'est l'idée d'avoir une meilleure couverture santé, et puis surtout aussi de savoir est-ce que les usines vont rester ouvertes ou pas, puisque General Motors a envie de fermer des usines pour les délocaliser, ce qui n'a pas plu du tout à Monsieur Trump, hein, qui est nationaliste et comprend pas pourquoi on va aller faire travailler ailleurs des gens, et qui en même temps lui-même est capitaliste. Hein, enfin, bon, ça, dans sa tête... Ça se bouscule, a priori. Puisque là, il y aurait une crainte de fermer deux chaînes d'assemblage qui sont dans l'Ohio et le Michigan. Donc, là, l'idée, c'est de se battre, évidemment, contre des fermetures possibles d'usines aux États-Unis, sur le sol des États-Unis d'Amérique. Il y a déjà cinq usines hein, en 2018 qui ont fermé sur l'Amérique du Nord. Donc, on s'attend à ce qu'il pourrait y avoir hein, d'autres problématiques, des délocalisations, et puis à cette histoire des salaires, parce qu'à un moment, bah, quand il y a eu la crise, je vous le disais, tout le monde a bien donné, hein, donc maintenant, bah, on aimerait bien récupérer le rapport, bah ouais, quitte à être capitaliste, ils ont raison, les salariés, il y a un moment, je veux dire, tu donnes de toi, tu bloques des salaires, dans certaines entreprises, ça peut se faire comme ça, à un moment, hein, il n'y a plus d'avancée, on te fait travailler beaucoup, on augmente tes horaires, on embauche moins, donc du coup, tu sues, et puis, bah, à un moment, quand ça va mieux, t'as envie de récupérer cet investissement dans l'entreprise.
Oui, mais c'est souvent les actionnaires qui ramassent.
Oui, alors là, General Motors a dit qu'il pourrait augmenter la part de la participation pour les salariés. Alors, General Motors agit très vite. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas bien comment ça va se passer en 10 ans. Qu'il y avait 7 milliards de dollars d'investissement, ça fait un peu moins en euros, hein, ça fait autour de 6, ouais, quelque chose comme ça. Un peu plus de 6, je dirais. Pour justement aussi mettre aux normes, on va dire, on va améliorer aussi des usines qui ne sont pas en très bon état. Et ce qui aussi fait à General Motors de dire, bon, de toute façon, on va aller ailleurs. Voilà. Là, il y a d'ailleurs, j'avais un sujet sur Michelin que je ferai pas, mais il y a un rapport qui sort aussi. Alors, c'est un rapport de capitaliste, mais on peut y voir une certaine chose qui est écrite dans ce truc de Michelin, c'est que les usines sont dans un mauvais état, elles sont pas entretenues, donc c'est trop facile après de dire on va aller ailleurs parce que là quand même c'est trop pourri. Donc du coup, on a une perte de productivité. Bah, c'est un peu ce que font les multinationales dans l'automobile. Voilà. Donc l'idée là, c'est de mettre de l'argent dans des investissements, c'est de créer 5 400 nouveaux postes, donner une meilleure participation aux bénéfices de l'entreprise et puis de donner une prime de 8 000 dollars voilà, aux salariés. Bon, donc il y a un peu des propositions. Pour l'instant, une tête de Otto Brokers, je ne sais pas quelle a été la réaction. Je pense que là aussi, hein, si jamais vous avez 4 dirigeants qui décident, tout ça se fait dans un bureau peut-être fermé. Non, j'exagère, il y a quand même bien un petit peu des discussions quand même avec les grévistes. Alors le problème qui se pose, c'est que de toute façon, cette grève, va falloir qu'elle se fasse vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la caisse de solidarité, la caisse de grève. C'est-à-dire que le syndicat n'a pas trop d'argent pour soutenir quand même la masse des salariés qui peut se mettre en grève, surtout quand t'appelles d'une manière un peu autoritaire, tout le monde à se mettre en grève, il faut du pognon derrière pour soutenir les familles, et ça, a priori, il n'y a pas vraiment là, peut-être, de quoi soutenir très très longtemps, mais ça, c'est partout.
Oui. ça peut aussi se faire en marche.
Ouais. Je t'ai vu tiquer sur cette expression, mais ça non, nous arrive à tous et à toutes.
Non, mais ouais. Les caisses de solidarité peuvent aussi se construire et se
bien constituer évidemment,
en cours.
Bien évidemment.
Mais effectivement, après, c'est marrant parce qu'en même temps, il y a aussi, est-ce que dans tout ça, si même on peut se dire, même si General Electric, veulent peut-être refaire des usines, ils peuvent aussi refaire des usines plus automatisées, etc. Ce qui fait que de toute façon, ils gagnent toujours une masse de pognon sur des gens qui iront plus bosser, etc. Et qu'en même temps, il y a aussi une autre question, c'est est-ce que le marché, on va parler en pur capitaliste parce que c'est quand même ça la réalité, est-ce que le marché de l'automobile, finalement, est-ce qu'il se développe pas aussi ailleurs? Est-ce qu'il pousse les constructeurs automobiles à partir...
Alors, j'ai pas les chiffres des ventes des automobiles et des achats aux États-Unis d'Amérique. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu trouver ces chiffres-là. Après, c'est quand même une course toujours à être de plus en plus gros et donc, du coup, à fournir de la voiture et de la faire de plus en plus vite. Pour que les consommateurs et les consommatrices les aident plus vite. Donc ça veut dire que s'il faut travailler plus vite, ben évidemment il faut produire, enfin on produit plus vite, tout le monde va acheter plus vite, donc il faut remplacer plus vite. Donc il y a une concurrence qui est plus rapide. Enfin, je veux dire, c'est un moment tu mets du temps pour faire une paire de chaussures, tu prends ton temps, elle a un coût. Toi tu l'achètes plus doucement, mais si l'idée c'est d'en produire vite 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 parce qu'il faut aller plus vite que le voisin d'à côté qui produit pas assez vite et qui n'inonde pas le marché, donc là la chaussure tu peux inonder le marché, sur la voiture c'est un peu différent, mais bon, on est quand même dans une course effrénée à la productivité et à la croissance, et à un moment la croissance, on le sait, des tas de gens ont écrit sur le principe de la décroissance, même sur l'arrêt de la croissance tout court, pour dire que ça marche pas, jusqu'où on va aller, jusqu'à l'implosion.
Ah mais ça, on est complètement d'accord. C'est juste qu'il y a des endroits dans le monde, ce que les capitalistes appellent des marchés, qui sont encore en demande, là où effectivement aux États-Unis, je crois qu'on est au moins à 2 voire 3 voitures par foyer.
Enfin, ouais, c'est un truc. Énorme, ouais.
Donc je me dis, est-ce que le marché, j'adore parler comme un capitaliste.
T'as vu, hein?
Non, est-ce que le marché finalement est saturé? Est-ce que tout ça est intéressant parce que finalement ça frise aussi le nationalisme du président Trump qui lui doit à mon avis doit pas bien se sentir que un des gros constructeurs veut partir. C'est assez phénoménal et en même temps n'oublions pas non plus que le capitalisme c'est crise sur crise sur crise sur crise et que il y en aura toujours une prochaine qui viendra aggraver notre situation bas quoi.
Après tu sais aussi par exemple j'avais un sujet que je ferai pas sur le Volkswagen et sur le Dieselgate hein, ce qu'on appelle cette affaire donc de triche et de tromperie sur le diesel. Mon sujet, c'était de parler de l'accord qu'a trouvé Volkswagen en Australie, qui va payer 79 millions là-bas pour dédommager les consommateurs et les consommatrices qui se sont fait tromper. Volkswagen essaie de négocier de partout dans le monde. Hein. Bon, ce qui est marrant, c'est que les voitures, les gens continuent à acheter des Volkswagen.
Mais oui.
Avec ou sans le diesel.
Oui.
Mais ici en France, ça n'a pas l'air de vous là qui m'écoutez. Peut-être que, je sais pas, vous avez oublié à un moment, vous avez une entreprise multinationale qui vous a trompé. Alors vous allez me dire, les autres aussi. Peut-être, mais Volkswagen a fait quand même la une. Eh ben, tout va bien. Enfin, l'entreprise ne s'est pas écroulée.
Ah bah non.
Les gens continuent à acheter une marque qui a trompé les consommateurs, les consommatrices et les États.
Effectivement.
Et ça ne gêne personne. Donc, le secteur automobile, un secteur très particulier, où les gens ont un espèce d'attachement un peu stupide. Et puis, en plus, on va vers aussi des voitures qui sont très très chères, parce que je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous dans la rue, mais elles sont quand même très très grosses, ces voitures. Et elles coûtent très très cher. On est loin de la 4L, quand même. voilà, et j'avais un autre sujet que je peux vous glisser ça aussi maintenant mieux. Ces grosses voitures font débat en Allemagne, et en particulier à Berlin, puisqu'il y a eu plusieurs morts suite à un SUV Porsche, donc de la grosse bagnole qui coûte en plus bien cher, ça fait un dérapage, un tonneau, et donc a tué plusieurs personnes, et en a blessé d'autres. Et donc, en Allemagne, où les écolos ont fait pas mal de choses, à la fois dans les partis, là, sur les élections, ils se débrouillent pas trop mal, et puis il y a des vrais écolos qui sont dans les partis, et qui sont vraiment pour l'environnement, ça c'était une pique contre les partis politiques, excusez-moi, il y a d'un coup un débat, certains diraient une polémique, moi je vais parler plutôt de débat, sur ces grosses bagnoles au sein de Berlin, voilà. Et donc il y a des élus qui souhaitent que ces gros véhicules soient interdit à l'intérieur de Berlin. Alors, il y en a d'autres qui le répondent. Vous osez utiliser la mort de personnes pour des fins politiques, voilà. N'empêche qu'il y a une réalité, on a... alors, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas pour l'instant de preuves que une voiture plus petite tuerait plus qu'un gros SUV. Parce que c'est la vitesse qui va rentrer dans l'équation et qui fait que la personne meurt ou pas.
Mais la masse aussi, non ?
Alors,
on sent le gars qui n'est pas sûr du tout.
Ce qui est en tout cas une certitude, vous regarderez ça, et surtout si vous avez des enfants, c'est que votre SUV, et si vous en avez un, vous mettrez votre enfant devant, à l'arrêt bien évidemment, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'âges où en fait il est pile poil devant le capot. Et c'est-à-dire que là où avant les adultes pouvaient se faire ramasser même au niveau des jambes, maintenant c'est au niveau du thorax. Donc il y a quand même des études aussi, il me semblait, hein, que moi j'avais lu une fois, que ben, il est, en tout cas les blessures n'étaient pas les mêmes. Oui. Donc peut-être que le débat est mal aiguillé, en tout cas, est-il que oui, c'est en plus des voitures qui ont un poids, une masse et qui consomment plus, hein, Laurent le rappelle souvent, c'est que on nous dit elles polluent moins. Ouais, mais enfin bon, il faut la déplacer. La grosse voiture. Alors que si jamais on fait la même, peut-être le même technique dans une plus petite voiture, bah effectivement elle pollue moins, mais comme elle est plus petite, vous voyez.
Ouais, mais une grosse voiture, tu vois, c'est
bon.
C'est un statut quand même. T'imagines pas.
Non, j'imagine pas. Non. J'imagine pas du tout. J'arrive même pas déjà à me voir derrière un volant, si tu veux. Voilà, vous aurez compris que je n'ai pas de voiture. Bah oui, il y a des moments où il faut être voilà, sur la tête les voitures. Il faut aussi n'en pas en avoir soi-même. Ouais, vous savez que alors, si vous nous rejoignez pour la première année, la première saison, hein, vous saurez donc qu'on est non seulement anti-nucléaire dans cette émission, qu'on n'aime pas les bagnoles non plus, et que Laurent, qui est là d'habitude, est un cycliste, et moi que je suis une piétonne, et que j'utilise aussi les transports en commun. Donc vous voyez, on a chacun un peu notre manière de vouloir vanter des manières de se déplacer, la basket ou le vélo, mais voilà, ça fait aussi partie des modes doux. Hein. Alors bon, la trottinette, a priori, c'est pas doux, mais on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, alors on continue avec un peu d'économie, voilà, on arrête avec la voiture, tout ça, les grèves, on passe à autre chose. Avec l'économie, on repart en Corée du Sud, hein. Je vous avais dit que c'était thématique, et on va parler... des bisbilles marrants, et comment on peut faire que il y a tout un secteur d'activité qui s'effondre dans un pays. On va parler de bière, puisque en Corée du Sud, il y a beaucoup d'importations de bières japonaises, et elles ont chuté, ces importations de bières japonaises en Corée du Sud, de 97%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'importation cet été en Corée du Sud, de bière japonaise. C'est à peu près ça, 97%. C'est-à-dire qu'il y en a trois qui sont rentrés par la douane en sortant de l'aéroport, hein, avec leur propre bière, globalement. C'est un peu ça, l'idée. Ah, j'exagère, d'accord, mais enfin, vous voyez un petit peu l'idée. C'est que dalle, 3%.
Ah bah, 3%, c'est, oui, c'est peanuts.
Ça a plongé de 97%, donc c'est pas exactement 3%, et tout à fait faux dans ma démonstration. Parce que je veux dire, 97%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait... il reste rien, quoi. Voilà. Alors, c'est des chiffres qui ont été publiés lundi. Oui, sur mes 3%, j'y reviens, c'est faux. Hein. Je sais pas, parce qu'il y avait 97 d'à côté, qu'on enlève 3, qu'on rajoute, hein, bien évidemment. On va pas faire un cours tout de suite sur les pourcentages. Alors, les entreprises, donc, avaient vendu, exporté, les entreprises japonaises de bière, exporté l'année dernière 7 570 000 $ de bière. Et là, en août, il y a eu 223 000 $. Donc, quand je vous disais, c'est les gens à la douane, c'est pour ça que je prenais cet exemple-là. Parce que là, c'est...
Ah oui, c'est flagrant, quoi.
Ah, ça va mieux qu'avec le pourcentage, quand oui, je vous donne des chiffres, hein, voyez, hein. C'est pour ça que je vous dis, en fait, je prenais cet exemple de gens qui sont passés à la douane, parce que 223 000 $, enfin, c'est un bateau qui s'est échoué, quoi. Il s'est trompé de port, je sais pas, qui arrive en Corée du Sud, alors que c'était pas là qu'il allait. On se demande. Alors, ils ont pas arrêté de boire.
Ah enfin, non.
Pas que je sache, en tout cas. Bon. Parce que si, bah oui, mais tu rigoles. Mais on pourrait penser qu'ils ont arrêté de boire, ils se sont mis, je sais pas, au sous-joue d'une manière inconsidérée. Donc là, le Japon est passé au rang de la 13e place en tant qu'importateur de bière en Corée du Sud. Alors que normalement, je suis à la 2e place dans les ventes, en tout cas. Dans les ventes, c'est les bières japonaises sont juste derrière celles qui sont produites localement en Corée du Sud. Donc c'est un gros marché, hein, quand même. Alors là, maintenant, on a des bières qui viennent beaucoup de Chine. Et de Belgique, et puis des Pays-Bas aussi. Parce que les Pays-Bas, vous savez, c'est aussi le pays d'Heineken, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qui attaque Heineken. En tout cas, lisez-le parce que c'est passionnant et vous ne boirez plus jamais une bière produite par Heineken, quel que soit son nom, sous la marque Heineken ou pas. Voilà, peut-être qu'on pourra en reparler un jour d'ailleurs dans ce Canu Info. Voilà, donc tout ça, vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que, Delphine, pourquoi ? Alors, il semblerait qu'il y a un petit souci commercial qui s'est transformé en bataille diplomatique entre les deux pays. Voilà, donc c'est pas parce que d'un seul coup les consommateurs et les consommatrices se sont dit bah pas bon, non on n'en veut plus, pour un nationalisme effréné, c'est alors si pour un nationalisme, mais dû à une bataille commerciale, c'est dû à la fabrication des smartphones et des téléviseurs. Vous savez que la Corée du Sud a de belles multinationales et le Japon de l'autre côté, et puis qu'il y a toutes ces histoires de je produis mais il y a ce qui va dedans. Hein, vous savez, voilà. Donc c'est pas si simple. Et là, en fait, il y a des produits chimiques qui sont contrôlés par le Japon, ce qui a fait réagir la Corée du Sud. C'est un peu l'histoire de taxes entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Vous voyez un petit peu comment une bataille commerciale se transforme en bataille diplomatique. Et ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'il y a eu un appel au boycott. Donc c'est là où je dis il y a quand même du nationalisme, mais qui est pas dû juste au fait de ouh, on va boire.
Oui, que de la, non, vu que des autres.
Bah non, puisqu'ils boivent
bière belge.
Et... Voilà. Il y a peut-être des amitiés belgo-coréennes, je ne sais pas comment on dit, particulières, mais là, c'est surtout qu'il y a eu un appel au boycott donc, des produits japonais et ça a fait chuter donc, les ventes de bière et donc les importations, en fait, tout simplement. Il y a d'autres produits hein, qui sont visés. Il y a les cosmétiques, puisque le Japon produit aussi pas mal de cosmétiques. Et puis, il y a la voiture.
Ah oui.
Et ouais. Voilà comment une bataille en haut de la pyramide fait que dans un supermarché, tu trouves moins de bière japonaise. C'est tout bête. C'est bête, hein ? C'est bête. Ouais. Allez, on continue et on va rester dans le coin avec une information, ma foi, pas extrêmement importante, mais qui va peut-être nous permettre de débattre d'autres choses, en tout cas d'une manière plus large. C'est au Japon, Nestlé qui vend des produits qui s'appellent des Kit Kat. Alors vous connaissez ça en France, sauf que Nestlé au Japon, avec ses Kit Kat, c'est une institution, puisque les Kit Kat existent dans, pas juste au chocolat comme chez nous, mais c'est un peu basique, car il paraît que maintenant il y a chocolat blanc chez nous. Bon, voilà. Enfin, ça reste de la friandise industrielle, hein, voilà, quand même. Mais au Japon, le Kit Kat fait partie de ces friandises. Alors il n'y a pas que le Kit Kat, ça existe dans toutes les variétés de ce genre de produits industriels et colorés, va exister dans des saveurs, j'ai bien dit saveurs, goûts, pas vrais produits dedans, multiples. Alors vous avez les classiques à la japonaise, wasabi, saké, mais alors après vous avez aussi des choses qui sont complètement barjo, alors vous avez des trucs fraises, framboises, oranges, bananes, voilà, kiwi, puis vous avez des trucs bizarres comme cheesecake, tout ça, et en plus c'est à la fois saisonnier et régionaliste, c'est-à-dire que selon les régions on trouve pas les mêmes saveurs, et puis en plus selon les périodes on peut trouver aussi des nouveautés, donc on est quand même un peu souvent dans la commercialisation du buzz, la spécificité, et ça s'offre beaucoup cette petite chose. Et il faut savoir que donc ça se vend dans des jolies petites boîtes en carton avec l'intérieur du Kit Kat qui est souvent en version petite. Je montre ça, ça doit faire 3 cm hein, mon à peu près 2.
J'aurais dit un petit peu plus quand même.
Allez, 5. Ouais, 5 cm avec le papier. Mais dedans, voilà, c'est pas bien gros. Allez, on va dire 5 cm. Je suis pas très bonne en calcul. Pardon, excusez-moi. Du coup, on se prend à fou rire. Enfin bon. Et donc, à l'intérieur de ces boîtes, vous avez évidemment des KitKat emballés individuellement, parce que sinon, ce serait pas drôle. Et vous avez aussi de la vente en sachet plastique. Dans l'intérieur, vous avez aussi des petites friandises emballées individuellement. Alors, ce qui est important, c'est la décision de Nestlé pourrait toucher d'autres vendeurs et producteurs de ces petites friandises qu'on trouve absolument de partout. Hein, au Japon, c'est pas forcément très bon d'ailleurs. Voilà. Bon, quoi que je vous recommande le Kit Kat Wasabi quand même. Il faut tester ça une fois dans sa vie quand même. Donc Nestlé a décidé de changer ses emballages plastiques par du papier. Et donc a lancé une grande communication au Japon pour faire savoir ça. Alors la question que moi je vous pose, c'est est-ce que c'est du greenwashing, du nettoyage vert, de la jolie communication verte, écolo ou pas. En tout cas, il y a une belle communication, puisqu'on vous explique qu'avec le petit emballage, tu peux faire des petits origamis. Oh, c'est mignon. Voilà, ce qui touche en même temps à la tradition japonaise. Donc, c'est un beau coup de com' hein, pour Nestlé et ses Kit Kat au Japon. Mais alors, c'est vrai que quand on va dans ces magasins, ces supermarchés où on trouve des friandises de partout, on peut se demander s'il n'y a pas une répercussion, de toute façon, ce plastique. Et si l'idée de Nestlé ne pourrait pas séduire d'autres producteurs, d'autres voilà, fabricants de ces friandises industrielles et changer un peu la donne sur un produit qui est extrêmement polluant parce que vous allez, vous, hein, peut-être acheter des fois des biscuits dans votre supermarché et tout est emballé individuellement. C'est-à-dire que vous donnez quand même à vos gamins au goûter des trucs qui sont quand même prévus, parfois pour les enfants et puis parfois pour tout le monde, pour toute la famille, où chaque sablé est dans un emballage plastique. C'est quand même un truc de fou. Et de folle. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, on peut pas renier que c'est plutôt une belle initiative, même si c'est Nestlé, et qu'on va, voilà, qu'on se doute que derrière, il y a aussi du coup de com'. Mais en même temps, on se dit, il y a un engagement, et dans un pays qui trie plutôt bien ses déchets, c'est plutôt aussi une marque aussi de rentrer dans un système assez précis. Voilà, est-ce que ça va inciter d'autres multinationales à faire le pas, ou d'autres d'ailleurs producteurs de biscuits et de friandises, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que certains et certaines espèrent au Japon. Moi, j'espère qu'ici, ça fasse aussi un petit peu, finalement, du bruit, et que on ait à la fois des Kit Kat wasabi banane, parce que c'est quand même les meilleurs, et puis qu'ils soient emballés dans des emballages papier, et qu'on arrête d'avoir ce plastique. Et en plus, c'est des petits emballages, tous ces trucs de biscuits. Là, je parle des Kit Kat, mais ça se met très facilement dans le caniveau, et donc... pas la poubelle.
Bah après, je pense que de toute façon, t'as une part de greenwashing. Je veux dire, à partir du moment où t'as une grosse entreprise telle que Nestlé, qu'on connaît quand même, qui par endroit n'a pas fait que du bien à l'environnement qui environnait ces entreprises, on peut se dire forcément, et qu'en même temps, tu te dis, bon, de toute façon, on va pas changer toute la donne tout de suite. Donc, si à la rigueur, ils peuvent mettre moins de merde autour des produits, eh ben, c'est ça de prix, j'ai presque envie de dire, ça fait très petite victoire et gagne petit, mais qu'est-ce que je vous dise, quoi?
Non, mais
parce que je me dis, vu la masse qui doit s'y couler, ouais. Si tu dis que c'est aussi, enfin, c'est en nombre et en quantité, etc., ben, je me dis, ouais, ben, ça sera toujours quand même ça de moins en plastoc. Alors oui, ça fera toujours ça de moins en...
Mais ça évite aussi de produire du pétrole, je vous rappelle, hein, l'emballage plastique, c'est la saloperie,
c'est ça.
À la base.
Oui.
Donc des usines avec qui polluent à la base, et ensuite on se retrouve avec un produit qui un déchet qui pollue et qui est en plus vraiment agaçant à recycler, ces espèces de petits machins en plastoc là. Donc là, et alors moi en plus franchement l'individualisation du biscuit, c'est quelque chose qui est quand même de, enfin, faut leur mettre des baffes à ceux et à celles qui ont envie de défendre ça, quoi.
Je sais même pas s'il y a grand monde qui a envie de le défendre. Je pense que c'est des fois c'est aussi le développement, recherche et développement, quoi, qui se dit tiens, on va lancer un nouveau truc, tu vois.
Super, comme ça tu peux mettre mais dans le sac de ton petit ou dans ton petit sac à toi,
ça,
tes petits biscuits qui s'écraseront tout autant, je tiens à te le préciser, oui. Puisque l'emballage ne protège pas de l'écrasement. C'est pour ça que finalement avoir un petit sac à biscuits et à goûter pour les gosses. Voilà, mais on sait aussi que tous ces problématiques d'individualisation polluent particulièrement. Il y a quelque chose qui est vraiment visé aussi et qui concerne aussi les enfants, c'est les gourdes. Vous savez, avec les compotes.
Oui.
Vous avez donc un emballage qui, en plus, est difficile à retraiter puisque vous avez une partie alu, machin, bizarre là, et puis une partie plastique. Et vous pouvez vous-même, si vous avez envie de séparer les deux, venir, vas-y, quoi, tu fais ta soirée découpe, hein, avec les gosses, comme ça, toute la famille, hop, elle a écouté, hop, là, comme ça, c'est activité manuelle. Mais ça, c'est un truc aussi, c'est-à-dire que t'as un petit bouchon qui se perd facilement. Donc, voilà, comment il se retraite? C'est un déchet, et toutes ces petites choses-là, c'est peut-être. Alors, je dis pas, c'est pratique pour les petits, à bouffer vraiment, hein, je veux dire, ils sont autonomes, hop, ils mangent ça, tout va bien. Sauf qu'on a là un produit qui, typiquement, est extrêmement polluant.
Mais moi, ça, c'est toujours le genre de truc, pardon, je vais peut-être finir.
Non, je t'en prie.
Et en fait, c'est toujours ça, moi, qui me fait un peu. C'est que finalement, les entreprises peuvent bien lancer à peu près quasiment quel produit ils veulent, parce que finalement, ils n'ont absolument pas à prendre en considération une logique de recyclerie, enfin de recyclage, etc., en fait. Et que c'est peut-être là aussi. C'est toujours pareil, on va parler de trucs qui vont appuyer le pouvoir politique, mais bon, de toute façon, tout le monde n'est pas anard, et pour l'instant, c'est comme ça que la majorité veut que ça fonctionne. Donc c'est aussi aux politicards, peut-être, de faire passer des lois, de dire, en fait, tu peux pas commercialiser un truc si tu ne mets pas en place, si tu n'as pas une possibilité de recyclage, etc., etc. Je sais pas si ça servira, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent lancer ce qu'ils veulent, parce qu'ils en ont absolument rien à taper, et que le recyclage, il va être porté par nous toutes et tous, c'est-à-dire la collectivité va prendre en charge la merde produite par par l'entreprise.
Oui, en ce moment, il y a des grandes discussions, vous savez, sur les sortes consignes. Ça a été un peu médiatisé au début, il y avait des histoires de rapports, tout ça. De savoir la consigne, est-ce qu'elle allait faire son grand retour ou pas en France. Alors, déjà, ça, on peut se demander qu'est-ce qui va être consigné. Parce que c'est vrai que moi, quand on parle de consigne, tout de suite, je pense à la bouteille en verre, mais en fait... ce qui serait d'abord la consignée, c'est plutôt ce qui est des types de canettes. C'est plutôt ce genre de choses. Et les bouteilles plastiques. Et pas le verre. Le verre, on a aujourd'hui en France les récupérateurs à verre, là, au coin des rues. Donc l'idée, là, c'est de la consigne. Tu ramènes ta bouteille de soda et puis ta canette. Bon, il y a aujourd'hui des entreprises qui se sont quand même bien spécialisées dans le traitement des déchets et de ce type de déchets et qui voient tout ça d'un très mauvais œil. Oui, je peux vous ça. Le dire. Parce que là, dans la presse spécialisée de l'industrie, il y a des gens qui s'énervent et qui sont en train de faire du gros lobbying contre cette apparition de la consigne, qui ont des arguments, ma foi, intéressants. Je voulais en parler la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, mais ça serait intéressant d'y revenir, parce que il y a des vraies batailles. Alors du coup, il y a des batailles d'experts aussi. C'est comment on recycle bien, c'est quoi le recyclage, qu'est-ce qu'il faut recycler, qui doit s'en occuper. Il y a aussi des choses qui sont mises en place selon les régions. Il y a des villes qui font des choses, d'autres un peu moins. Il y a l'idée aussi de mettre au poids les poubelles, par exemple. Donc plus ta poubelle grise est légère, moins t'as de taxes, puisque, ou alors à l'inverse, la poubelle verte est bien remplie. Voilà. Donc il y a des choses qui sont mises en place comme ça dans des collectivités où par exemple il y a beaucoup de maisons en individuel, donc ça oblige les familles à gérer leurs poubelles en propre. Dans les villes, il y a des gens qui s'y opposent en disant non, mais alors du coup, et mon voisin il sait pas bien recycler, donc du coup je vais payer pour lui. Oui, mais enfin, bon, il y a un moment le débat, il va se passer tous et tout ensemble aussi, hein. On n'est pas obligé de se mettre non plus sur la tronche dans les parties communes et devant les poubelles pour des problèmes de recyclage. Mais on sent qu'il y a quand même des difficultés aujourd'hui à ça. Laurent rappelle aussi assez fréquemment que le recyclage n'est intéressant que quand il est fait à côté de chez nous, parce que quand il fait le tour de la France pour aller dans une autre usine, en termes de pollution, bon, faut quand même la trimballer, hein. T'as benne pleine de déchets à recycler. Et puis derrière, quand t'as une entreprise qui fait de l'argent dessus, effectivement, elle s'oppose à des nouveautés. Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui en France. C'est qu'on a individualisé et sectorisé les déchets avec les histoires de consignes. On attend de voir ça, quoi.
C'est en Allemagne, je crois, que le plastique, il est déjà. Où certains plastiques sont consignés. En
fait. Ouais, alors je sais par exemple que dans les pays comme le Danemark ou la Suède, il y a les consignes, hein, à bouteille, hein, ça se fait. Mais il y a une autre gestion. Il y a des villes, par exemple, au Danemark, où il y a des immeubles neufs, comme on en trouve. Je ne parle pas d'un quartier, la commune nous entoure, hein, autour de Radio Canu, mais où il y a, comme une ville sur Villeurbanne, par exemple, où il y a beaucoup d'immeubles neufs, c'est construit aussi dans une logique où il y a des gros containers à déchets qui sont prévus et qui fait que t'as pas une minuscule poubelle verte et que t'es obligé de réclamer à la métropole d'en avoir une autre, quoi. Donc voilà, c'est aussi une gestion à long terme, et donc il faut peut-être aussi penser demain comment on peut faire, et donc il faut qu'il y ait des lieux. Moi je pense que par exemple dans les rues, dans un quartier comme les pentes de la Croix-Rousse, le quartier de Radio Canu, hein, où ça a l'air d'être compliqué, hein, parce qu'il y a des allées petites, c'est pas tout à fait évident, mais en même temps, si on enlève de la bagnole sur le trottoir, pardon, mais tes espaces de poubelle, tu les trouves au quotidien. Alors je sais, toi qui habites dans certaines rues du quartier et qui m'écoute, tu viens me dire que t'as les poivrons qui bourraient le samedi soir, renversent ta poubelle, en foutent de partout et c'est chiant. Sauf que c'est quand même pas toutes les semaines, et que la réalité c'est qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de poivrons, et que on peut très bien gérer ça avec des poubelles extérieures qui soient bien gérées, et que on gagne de l'espace, on enlève de la voiture aussi, et que l'espace on peut le trouver si on veut. Je dis pas que c'est facile et que c'est hyper machin et tout, parce que je rappelle aussi qu'un quartier comme les pentes de la Croix-Rousse, il y a des hommes c'est les hommes en général, qui sortent vos poubelles avec parfois des marches, il faut descendre les trottoirs et tout ça, alors que si on organise une dépose de poubelles à l'extérieur, à la place d'une bagnole, c'est-à-dire que déjà, il y a une manipulation qui est plus simple. Moi, je dis ça comme ça.
Comme ça.
Comme ça.
L'idée est passée, en tout cas.
Voilà. Donc, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là.
Je ne sais pas si je vous retrouve la semaine prochaine ou pas, on verra. Voilà, ça sera peut-être bien, peut-être pas. On aime les surprises dans cette début d'année. Hein. De rentrée en tout cas, parce que le début d'année, pas tout à fait, mais de c'est l'année scolaire qui commence.
Ouais.
Voilà. On vous laisse en compagnie, a priori, des bandes continues pour ce jeudi 19 septembre. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.
Mais bonne soirée à tout le monde.
Merci Jean-Yves d'être venu et de m'avoir accompagné pour ce Canu Info.
Ce fut un plaisir.
Et on rappelle qu'il y a la causerie le dimanche.
Oui, tout à fait, dimanche de 22h à 23h. Et ce dimanche, on reçoit les membres d'une compagnie théâtrale. J'ai oublié le nom, j'ai honte, pardon. Mais on va parler autour d'une pièce qu'elles sont en train de monter. Autour de la relation France-Algérie avec des lectures, etc., etc. Écoutez, dimanche 22h, 23h, vous aurez plus d'infos.
Voilà, et on vous rappelle que les émissions de Radio Canu, dans une grande part, sont disponibles à la réécoute ou à l'écoute sur les blogs des émissions de Radio Canu. Voilà, vous allez sur le site, vous cherchez les émissions, tout ça, et puis vous débrouillez après.
Bah oui.
Voilà, à bientôt.
À bientôt, bonne soirée. Ciao.